l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Queyrouga. Dans la vallée de la Méouge, située dans les Hautes-Alpes, entre les champs fleuris de lavande et les coquelicots de ce mois de juin, je suis tombée sur une petite ferme, celle de la fromagerie de la Méouge, et les petites mains qui vont avec et rendent cette production humaine. Rencontre avec Chloé, qui trayait les chèvres de ce petit troupeau. Elle nous raconte son expérience sur la ferme et son parcours pour aider les paysans éleveurs. Alors, on est où ici, Chloé ?
Alors, ici, on est à la ferme de la Méouge, la chèvrerie de la Méouge, chez Manon et Jeff, qui ont monté cette ferme il y a 4 ans, avec des chèvres de race poitevine. Et c'est un petit troupeau de 35 chèvres. Aujourd'hui, on en trait 32. Et c'est la traite à la main.
Alors, pourquoi il y en a 3 qui n'ont pas le droit aujourd'hui ?
Parce que ben, y a Quetch, qui est toute jeune, elle a moins de 1 an et demi, du coup elle fait pas de lait encore, et les 2 autres parce qu'elles ont pas de lait, du coup on les trait pas. Je sais plus les raisons exactes. Il y a ma Kizarde et il y a je sais plus, un petit, ben enfin ça se voit quoi, elles ont pas de pie, du coup elles ont pas de lait, et donc on les trait pas. Et donc là je fais la dernière rangée, je fais la repasse avec mescaline. Donc normalement, quand on trait, donc il n'y a pas beaucoup de jets. Et la repasse, c'est dur parce qu'il faut bien viser le seau. Et ici, chaque goutte de lait est très précieux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, c'est une toute petite structure. Et il n'y a pas beaucoup de lait, quoi. Là, je ne sais pas combien je vais en avoir, mais l'autre jour, quand j'ai trait, j'avais 29 litres. Mini qu'il faut bien traire parce qu'on lui a enlevé le cabri il y a pas longtemps. Et du coup, il y a certaines chèvres, elles ont encore leur cabri là. Du coup, on les met ensemble avec leur cabri la journée. Elles vont dehors, elles vont pâturer. Mais Mini, ben le cabri est parti. Et on fait de la viande. Viande de chevreau, c'est très bon. Musette.
Ça fait combien de temps que tu y es depuis ce matin là ?
Bon, je commençais à traire à 6h30, j'ai mis le réveil à 5h. Voilà, j'ai préparé la chèvrerie avec le foin, tout ça. Et un petit processus pour... Et voilà, la traite est terminée. Wouhou ! Merci les filles ! Faire monter les chèvres sur le quai de traite. Et après, quand j'ai tout fait... Je les renvoie à la chèvrerie et elles vont manger le foin, elles vont s'attacher. L'idée, c'est qu'elles ne se couchent pas pour que le sphincter du treillon se rebouche et qu'elles ne se couchent pas dans la paille ou dans la merde et que ça amène des infections ou des maladies. Et du coup, dans une heure et demie, il y a Manon qui va venir les décrocher, les amener pour pâturer. Bah, j'ouvre tous les portillons là pour les faire passer au pâturage tout à l'heure. Je remets les clôtures pour moi que je puisse passer avec le véhicule. On va aller vérifier qu'elles soient toutes bien attachées au cornadis et qu'elles mangent toutes bien. Alors non, là il y a un mescaline, elle n'est pas attachée.
Donc là en fait elles viennent manger après la traite, ouais. Et c'est un système où quand elles passent la tête pour manger, ça les attache voilà, comme on voit avec les vaches.
Hein. C'est des cornadis, on appelle ça des cornadis. Ça fait juste 2 mois que je travaille le jeudi et le samedi à la chèvrerie de la Méouche.
Tu leur files un coup de main pour qu'ils puissent avoir un peu de temps pour eux.
Ouais, c'est les jours de marché. Du coup, il y a une personne, Manon ou Jeff, qui va au marché. Et l'autre qui s'occupe d'amener les enfants à l'école, parce qu'ils ont 3 enfants. Donc, ils m'emploient ces 2 jours-là pour que je fasse la traite et le fromage. Après, il y a la partie fromagerie.
Au revoir, les filles.
Je vais rabattre le foin vers elle pour qu'elle finisse de le manger.
Et le chien, il reste tout le temps là, dans les pattes des chèvres.
C'est Luna. C'est un chien de protection parce qu'il y a des loups par ici, enfin des prédateurs. Et du coup, elle est là pour protéger le troupeau. Parce que le loup, il peut rentrer dans la chèvrerie. Et ouais, et c'est ses copines, les chèvres. Il les protège. Il y a quelques cabris, encore une dizaine de cabris. Donc les cabris... Il y en a certains qui vont servir pour le renouvellement du troupeau, donc qui vont être gardés. On est en train de choisir leur petit nom. Et d'autres qui vont passer à la boucherie. Voilà. Et c'est...
C'est surtout les mâles qu'on va manger
Et les femelles qui vont pas être gardées. Mais oui, en priorité les mâles. Mais il y a un petit mâle qui a été gardé aussi pour servir de bouc en reproduction. Et il y a des échanges avec les fermes du coin pour la génétique, pour pas qu'il y ait trop de consanguinité dans les troupeaux. Voilà, que dire, non, mais ici, les cabris restent très très longtemps sous la mer, quoi. 4 mois, donc ils sont toujours ils têtent toujours le lait de leur maman la journée. Et on les sépare la nuit, comme ça, les chèvres ont du lait le matin, on peut faire la monotraite. On est en monotraite, système monotraite, donc une traite par jour.
Vous êtes un peu les seuls hein, par ici à faire à la main.
Ben dans les Hautes-Alpes, je connais une autre ferme qui fait traite de chèvres à la main. Il doit y avoir à peu près le même nombre de chèvres. Mais autant, il y en a d'autres que je ne connais pas. Mais oui, c'est assez rare, mais ça revient, j'ai l'impression. Parce qu'il y a un lien avec l'animal qui est hyper plaisant et qui permet d'aimer ce qu'on fait, d'aimer les chèvres, de les respecter. Je dis pas que avec la machine à traire, ça, c'est différent, mais enfin, c'est différent, mais voilà, on n'est pas sur une logique de produire quoi. C'est une logique plus de respecter, de respect global de l'environnement, des animaux, de nous. Mais après, c'est quand même physique la traite à la main, hein, c'est des mouvements très répétitifs. Donc ça peut vraiment user aussi nos petites mains. Donc c'est pas mal, je pense qu'ils emploient quelqu'un aussi comme moi, Manon et Jeff, pour se libérer 2 matins dans la journée pour pas avoir à traire. Ça fait du bien, quoi.
On va à la fromagerie, là.
Exactement. Donc on a chargé les 2 bidons de lait. Allez, j'ai réflexe, hein, sûr. Dans le Kangoo. Et on est parti pour la fromagerie qui est située dans le village de Barré-sur-Méouge, à 2 km du coup. Et l'idée c'est de finir la traite pas trop tard parce que il fait chaud et il y a les mouches qui arrivent, ça embête les chèvres, donc dès qu'il fait trop chaud, c'est pas top. Pour la traite. Hop, c'est parti. Et donc là, on a fini. Moi, je mets 2h30 pour traire. C'est assez lent, mais c'est le rythme que j'ai. Et donc, on a fini de traire à 9h. On va aller mesurer le lait qu'on a fait. Enfin, qu'on a fait, que les chèvres ont donné plutôt. Et puis après, je bois un café, je mange un petit truc et je passe en fromagerie et on fait le fromage. Ben là, Manon a fait de la tome de chèvre hier. Du coup, j'aurai pas de. Elle a utilisé le lait du jour. Du coup, j'aurai pas de fromage à mouler. aujourd'hui, parce que pour mouler des petits fromages frais, on utilise le lait de la veille. Voilà, qu'on stocke à 21 degrés, avec y a des ferments et de la présure qui sont ajoutés. Du coup, le lait se transforme en cahier et petit lait. Et il faut 24 heures pour que ça se passe, donc on moule le lait de la veille.
Et il n'y a pas de répit du coup. C'est tous les jours qu'il faut traire, donc c'est tous les jours qu'il faut traiter le lait d'une façon ou d'une autre.
Oui, tout à fait. Tous les jours, il faut traire les chèvres. Mais la saison de lactation, c'est quand même saisonnier. Ça va être de début mai à décembre à peu près. Les chèvres, elles font du lait à ce moment-là. Et donc le reste de l'année, il n'y a pas de lait, donc elles font pas de lait, donc on fait pas de fromage, et donc vous trouvez pas de fromage sur les marchés.
Pas de fromage frais en tout cas.
Ben ouais, pas de fromage frais. Après les tomes, on n'en fait pas beaucoup, et puis elles sont affinées 6 semaines, donc voilà, 6 semaines jusqu'à plus, mais on va pas trouver de fromage de chèvre dans le coin. En janvier, février, voilà.
Alors du coup, Jeff et Manon, ils font pas que ça peut-être, parce que sinon, 3 mois sans revenus, c'est difficile.
Eh ben, ils ont pas beaucoup de revenus. C'est une toute petite ferme, du coup, oui. Voilà, mais ils arrivent à vivre avec ces petits revenus. Ils font un jardin potager à côté. Et non, ils sont agriculteurs, paysans plutôt, à plein temps.
Et toi, donc, tu viens aider. T'es pas agricultrice, t'es pas paysanne, mais t'es en voie de le devenir.
Et moi, là, je suis dans une phase où je teste des choses qui peuvent me plaire ou pas. Et ben, je trouve que c'est quand même devenir paysanne. Pour l'instant, ça demande beaucoup d'investissement personnel, enfin de soi, enfin ouais, d'engagement. Et c'est un peu compliqué pour moi là. Du coup, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Je trouve que c'est trop dur pour l'instant. J'aime bien. Être paysanne deux jours par semaine, ça me va bien. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est donner de mon temps, de mon énergie pour Manon et Jeff qui sont des vraiment chouettes personnes, qui ont une ferme vraiment avec des valeurs qui me tiennent à cœur. Enfin, j'ai l'impression de faire une bonne action et puis je suis bien dans ce que je fais, donc c'est... Ouais, pour l'instant, je suis trop bien. Et j'ai pas la responsabilité, la charge mentale du système économique ou de... Est-ce que je... Enfin, est-ce que... Voilà, les chèvres... Enfin, voilà, enfin, c'est assez léger pour l'instant, mon travail, et ça me va bien comme ça, quoi.
Et c'est vrai que ça doit être une sacrée aide pour des agriculteurs qui sont déjà très, très pris, d'avoir des gens comme toi qui sont dispo à filer des petits coups de main.
Oui, mais moi je suis salariée, hein, donc ils me payent mes heures. Voilà, mais du coup j'ai pas mal de temps libre que je passe à être impliquée dans d'autres associations, dans d'autres activités, et c'est bien aussi quoi. On arrive à la fromagerie, tout le monde descend.
faut se mettre des chaussures propres pour rentrer ou comment ça se passe?
Pour entrer dans la fromagerie, il faut être en habit de fromagère, avec des bottes et tout. Je rince ça dans cet évier et après je vais à l'intérieur mesurer le lait. Je peux te prêter des bottes. Donc ça c'est un couloir à lait. Donc c'est un gros entonnoir en fait qu'on met sur les bidons de lait. Et où c'est un gros entonnoir avec des filtres, filtres alu et filtres papier. Voilà, comme ça quand on récolte le lait. Il y a tout ce qui est impureté, les poils des chèvres, tout ça qui vont pas dans le bidon. Mais bon, vu qu'on travaille avec du lait cru, il y a toutes les bactéries de la ferme qui se retrouvent dans le fromage. Les bonnes bactéries. Et comme les mauvaises parfois, mais... Mais normalement, nos organismes sont un peu habitués à... Je me dis, ça enrichit notre flore intestinale de manger des fromages au lait cru. Bon, on utilise un éco-cup pour faire pour tirer le premier lait, pour voir si le lait est... Si le lait est bon, s'il n'y a pas d'infection ou de mammite ou quoi que ce soit. Dès qu'on tire le premier lait de la chèvre, on voit si le lait il est sain ou pas, quoi. S'il sort liquide, c'est parfait. Liquide et blanc, c'est parfait. S'il y a un peu d'égrumeaux ou un peu une autre couleur ou une odeur, une mauvaise odeur, c'est peut-être signe qu'il y a une infection ou une inflammation, une mammite. Donc là, dans ce cas-là, on trépa la chèvre. On trépa la chèvre ou on met le lait de côté, quoi. On le jette, le lait. Après, là, si c'est une chèvre qui a un chevreau, c'est peut-être pas la peine de la traire, quoi. Donc on est rentré dans la fromagerie. Première chose à faire, c'est bien se laver les mains.
Équipé de belles bottes, hein, du coup.
Oui, on a mis des bottes blanches. Et on a fait attention à ce que les mouches ne rentrent pas à l'intérieur de la fromagerie. Et là, on va mesurer le lait. Un seau gradué, 10 litres. On y met un deuxième filtre pour filtrer le lait, une passoire avec un petit chinois dessus. On prend deux seaux de 20 litres, un thermomètre pour vérifier la température du lait. L'idéal c'est qu'il soit entre 18 et 21 degrés le lait. Alors attention parce que là je vais aller dans à l'évier. Tac, tac. Parce que le lait de la chèvre il sort à, je sais plus, je dirais 37 degrés, donc on le refroidit. Je mets 5 litres et 5 litres.
C'est-à-dire que tu vas mélanger finalement tout le lait, ouais, des 32 chèvres que tu as trait ce matin.
C'est ça.
C'est par rapport à, j'imagine, la qualité. Chaque chèvre va avoir son arôme.
C'est pour avoir un mélange dans les deux seaux le plus homogène possible.
La fromagerie, elle doit répondre à un cahier des charges strict et il faut faire très gaffe, t'arrêtes pas de te laver les mains, faire très attention, ouais, à où tu mets les choses.
Tout à fait, ouais, il faut faire gaffe à l'hygiène, voilà, pour pas amener des mauvaises choses dans le lait, dans le fromage. Et donc ça, c'est le lait qui va être emprésuré tout à l'heure, en début d'après-midi par Manon.
Et ça permet donc au lait de prendre en masse.
Ça permet que les protéines coagulent et de former le petit cahier, du coup. et qui sera moulé en fromage frais demain par Manon. C'est du vivant, tout ça.
Donc la présure, c'est une substance chimique qu'on trouve dans la panse des animaux, c'est ça ?
C'est à base de caillettes de veau. Voilà, et du coup, il y a des industries laitières qui fabriquent en grande quantité cette présure. Et nous, on en met vraiment très très peu, parce que là, les dosages préconisés, c'est 5 à 10 ml pour 100 litres de lait. Pour des tomes et pour les lactiques, c'est 25 à 30 ml pour 100 litres de lait. Nous avons 28 litres de lait, donc c'est vraiment une goutte d'eau quoi, qu'on va mettre dans chaque seau.
On parlait un tout petit peu comme ça des propriétés du lait de chèvre. Ça va cailler, ça va prendre en masse, mais ça va garder les propriétés parce que c'est du lait cru.
Oui, tout à fait. Toute la flore bactérienne qu'il y a dans la ferme, sur les chèvres, dans le lait des chèvres, se retrouve dans le fromage et c'est une flore très riche et bonne pour nous aussi, quoi.
En fait, c'est vraiment là se rendre compte des interactions de notre environnement. C'est incroyable, on ne se rend pas compte, mais toutes les bactéries, toutes ces formes de vie qu'on a à l'intérieur de nous qui nous permettent de bien fonctionner, ça vient des aliments qu'on mange, des animaux qui nous aident à manger ces aliments, et ça vient de ce qu'elles vont brouter aussi.
Ouais, tout à fait. Là, les chèvres, elles sont pas mal en prairie, mais elles mangent aussi en colline, dans les sous-bois, les arbustes. Donc c'est toutes des zones qui sont pas cultivables et qui sont valorisées aussi à travers les chèvres, le lait qu'elles produisent et au final le buisson ou l'herbe qui est pas consommable par l'être humain, il est quoi, à travers des intermédiaires comme les chèvres et de l'énergie. Et du travail.
Et alors toi, Chloé, tu parles comme un peu une spécialiste aussi, parce que t'as travaillé sur le pastoralisme et t'as une vision assez complète quand même du système.
Oui, tout à fait. J'ai travaillé 8 ans pour le service pastoral de la région PACA. Donc ça s'appelle le CERPAM, Centre d'études et de réalisation pastorale Alpes-Méditerranée. Et donc l'idée, c'était de faire des études, du conseil, aussi de la recherche et des références sur tout ce qui est pâturage des espaces naturels par les troupeaux domestiques. On est à 22. C'est un peu... Donc là, on entame la première mission de la fromagerie, c'est démouler les fromages qui ont été faits la veille, les tourner. Donc là, maintenant, elle a fait des tomes, 3 tomes au lait de chèvre. C'est composé de la même chose, de lait aussi de chèvre. Ça va pas être la même recette. Pour faire la tome, on utilise du coup les 2 traites et le lait du jour, du coup, et plus la traite du lait de la veille. Et le lait est refroidi au maximum. Et ça ne va pas être le même type de ferment, je crois, qu'on met dedans. Et la même recette. Enfin, j'en ai pas fait encore la tome de chèvre.
Ça se sale. Il y a du sel voilà. Aussi. Hein.
Donc là, on va procéder... j'ai démoulé. On va procéder au salage. Il faut mettre 15 grammes par face. Donc là, j'ai mesuré mes 15 grammes, j'ai pesé mes 15 grammes de sel. Je dépose sur la face, enfin sur le fromage, et j'étale en essayant d'avoir une répartition assez homogène sans en mettre à côté. Et donc le sel va pénétrer doucement à l'intérieur du fromage. Donc c'est une méthode de salage. Il existe d'autres méthodes en présure, donc de l'eau salée, laisser les fromages dans de l'eau salée plusieurs heures pour qu'ils soient salés.
Et donc, une fois que c'est salé des deux côtés, tu laisses reposer avant de consommer un certain temps.
Ouais, alors là, ils sont laissés en salle de fabrication jusqu'à ce soir, je crois. Et après, on les met dans un cave. Bon, nous, les caves, c'est des gros frigos, en fait. Pour les tomes, c'est 14 degrés, la température de... qu'il faut. Ouais, c'est ça, 14 degrés, je regarde derrière. Et voilà, on va les tourner tous les jours, les fromages. C'est pas en cave parce que c'est une toute petite structure ici, on fait pas beaucoup de fromage. Et du coup, l'idée de la cave, c'est que ça soit frais. Et donc, dans les grosses, enfin, dans les fromageries un peu plus grosses, il y a vraiment une pièce qui est à 14 degrés, maintenue à 14 degrés. On appelle ça une cave.
Et alors, ces caves, elles ont aussi leur lot d'apports en bactéries et autres. Hein. Il y avait eu une attaque des fromages bleus au niveau international, au niveau des normes. On en avait parlé à l'Ours et la Carotte avec un spécialiste qui avait défendu justement les fromages au lait cru qui avaient été attaqués par les Américains il y a quelques années. Et ça a été reconnu comme un patrimoine très important à défendre parce que sur les normes hygiéniques, il y avait les Américains qui voulaient imposer des normes parce qu'ils trouvaient ça pas très propre, justement, qu'on puisse mettre des fromages dans des caves où il y avait des bactéries, peut-être centenaires, hein, qui donnaient la spécificité, notamment au fameux bleu d'Auvergne, ou au bleu du Queyras, ou enfin voilà, aux différents bleus.
Tout à fait, ouais, ça fait partie du patrimoine culinaire, enfin culinaire, patrimoine de la France et des régions et des localités.
Et alors, je pense que même ça avait été discuté pour en faire patrimoine reconnu au niveau de l'UNESCO. Mais je pense que ça n'a pas avancé, non ?
La France est très riche à ce niveau-là et c'est une bonne lutte. Il faut préserver ça. Et il faut continuer, enfin vraiment, faut manger du fromage au lait cru parce que c'est une richesse, quoi. Une richesse de nos territoires, de notre histoire. On a fait 28 litres, c'est marqué dans l'agenda. Et là, c'est le temps du café, de manger un petit truc pour reprendre des forces.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet.